long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead.
The game is a game. Always.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un peu spécial du podcast Basket Session Reverse cette semaine. Vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires, des questions depuis le début de la saison quasiment sur la NCAA, chez les garçons, chez les filles, pour savoir quels joueurs, quelles équipes suivre, comment regarder la saison. On s'est dit qu'on allait essayer de vous aiguiller un peu en vous parlant justement des joueurs et des athlètes qui ont participé à ce tournoi NCAA. Alors vous savez qu'Antoine, Théo et moi-même, on essaie de regarder tous ces matchs-là et de se tenir au courant. Mais on s'est quand même dit qu'il fallait un peu d'expertise pour ne pas passer pour des manches au moment d'en parler, ça serait quand même mieux. Et j'ai pas eu à réfléchir très très longtemps pour trouver la personne de mon entourage qui connaît le mieux le basket universitaire, particulièrement chez les garçons. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Loan Rayet, ami, camarade de Fantasy League, de jeux de mots aussi équivoques que pointus sur les joueurs NBA, absolument.
Oui.
Loan, comment ça va?
Pas bien, et toi?
Bah écoute, super, la March Madness commence, c'est toujours excitant.
C'est le meilleur mois de l'année. C'est le meilleur mois de l'année.
Alors, et là où c'est cool, c'est que pour une fois qu'on parle de basket universitaire, c'est la saison où j'ai le moins suivi quasiment chez les mecs. Donc c'est parfait que tu sois là pour m'aider à discuter de tout ça. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos chers auditeurs? Parce qu'en attendant de te retrouver plus tard comme assistante de John Shire à Duke, parce que c'est le projet. Hein.
À terme.
Tu es toujours en France pour l'instant, n'est-ce pas?
Ouais, je m'appelle Loan Ozic sur Twitter si vous voulez follow. Alors moi, ce que je kiffe, c'est le basket, mais surtout masculin, et le basket universitaire, c'est un peu ce qui m'a bercé quand j'étais un peu plus jeune. J'ai beaucoup suivi, beaucoup fait de contenu là-dessus, que ce soit perso, et puis aussi j'ai bossé chez Trash Talk sur la draft avec cette expertise-là, donc on va dire que ça me suit un peu. Et puis, ouais, le basket masculin, c'est toute ma vie. Je travaille actuellement dans un club de basket en France, qui joue en seconde division, la Pro B, en Alsace. L'Alliance Sport Alsace, pour ceux qui connaissent. On verra s'il y a des fins connaisseurs, évidemment.
C'est Gris Souffel, c'est ça, qui se sont mis ensemble.
Gris Souffel Weersheim, si tu veux faire le nom en entier. Si tu veux que ça dépasse du cadre, ça dépasse les 144 caractères sur Twitter, tu peux. Mais ouais, je suis dans un petit patelin d'Alsace, mais c'est trop bien. Donc,
tu commences déjà à scouter pour ta carrière en NCAA, on est d'accord.
C'est ça, il y a 2-3 prospects, on garde de côté.
Ok, super. Bon, alors on va parler NCAA du coup avec cette March Madness.
Yes.
Déjà, parce qu'on sort quand même d'un tournoi de l'année dernière qui a été complètement dingue, on va pas se le cacher.
Carrément.
On en discutait avant de lancer l'enregistrement, là. Il y a eu un nombre d'upsets incroyable et ça s'était terminé de manière aussi assez exceptionnelle, si je dis pas de bêtises.
Bon, on va dire que tout ce qui... On va dire, les quarts de finale et les demi-finales ont été particulièrement folles, avec notamment le passage au Final Four de Florida Atlantic qui était top 10 seed ou 9e, je sais plus clairement, mais Florida Atlantic n'avait... Personne n'avait parié sur eux, on va dire, au début du tournoi. Et même les demi-finales où San Diego State se qualifie au buzzer pour la finale. UConn gagne avec un petit peu d'écart, mais le tournoi était totalement fou.
Ouais. Ah oui, il y a pas mal d'upsets. Moi, je me rappelle de Purdue aussi. Je crois que je voyais Purdue avancer un peu, puis au final, il s'était mangé.
On va dire que c'était Purdue qui sortait le premier tour. C'est le deuxième match où le 16e seed, la plus basse tête de série, sort le premier.
Ouais,
après Virginia, il y a 4-5 ans.
C'est ça fait 2 ans de suite en plus pour Purdue, je crois. On en parlera un peu après dans les équipes bien classées, mais eux, tous les ans, c'est l'upset.
L'année dernière, en 2022, ils se sont fait sortir par un petit mec qui s'appelait Doug Eder, qui a un peu percé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec sa petite moustache à St. Peter's.
Absolument.
Le plus beau run de 2022, on va dire que Purdue en a fait des frais et Kentucky aussi, donc ouais. C'était beau à voir aussi.
Alors, on peut peut-être commencer par les vainqueurs qui sont encore favoris. J'ai regardé un peu chez nos amis bookmakers un peu quelles équipes étaient les favorites cette année. Et visiblement, UConn fait toujours partie des équipes favorites. On sait que
Ouais.
c'est super dur de faire le back-to-back en NCAA. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont réussi. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Parce que c'est pas facile de se réinventer quand tu as perdu des joueurs qui sont partis en NBA. Alors il y en a
Ouais.
qui sont arrivés. Moi, de ce que j'ai regardé un peu, parce que UConn, c'est toujours chez les filles aussi, c'est une des franchises que des franchises. Alors des formations, une des facs que je préfère. J'aime bien l'équipe de cette année, de ce que j'en ai vu. Cam Spencer qui est arrivé, c'est plutôt cool.
Ouais.
Qui est arrivé de Rutgers, qui est un gros shooter. Il y a toujours Tristan Newton qui était l'année dernière. Qu'est-ce
Ouais.
que alors qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Est-ce que le back-to-back est possible?
En fait, UConn fait une super saison dans une conférence qui est quand même relevée. La Big East, c'est toujours relevé. Ça fait partie des cinq conférences majeures, donc on est obligé de regarder ça de près. Et ouais, UConn a été premier au top 25 pendant, je dirais, au moins la moitié de la saison. Et un petit peu en déclin sur la fin de saison, mais on va dire que c'est léger. Et en même temps, ce top veut pas dire grand-chose vu qu'on compare des équipes qui jouent pas du tout les mêmes matchs et les mêmes équipes. Mais ils ont fait une grosse saison encore. Ils se sont renforcés parce que la perte de Jordan Hawkins, c'est sûr que c'était une grosse perte dans l'effectif, mais ils ont réussi à recruter. Le portail de transfert aide beaucoup maintenant à recruter des mecs qui sont déjà dans le milieu. Donc on va dire que la structuration d'équipe, elle est toujours là. Donovan Klingan fait une saison de fou encore.
Ouais, leur pivot, hein,
Il
c'est
a
ça, c'est.
un... Ouais, c'est ça. Le pivot qui a encore step up après son année freshman. Donc je pense. C'est dur de faire le back-to-back. Dan Hurley a déjà gagné des titres, mais il sait que c'est compliqué. Mais ils vont se battre pour le titre. Ils sont là pour le tenter. Si ça se fait pas, ils perdront avec l'honneur, mais ils vont tout donner encore
C'est
une
pas
fois.
le genre d'équipe que tu vois se faire upset au premier tour ou enfin au deuxième, même au
Face à
deuxième tour.
Stetson, j'ai du mal à y penser.
Ouais. Ok pour UConn. De ce que j'ai suivi, encore une fois, j'ai suivi de façon très sommaire par rapport à d'autres années où j'étais vraiment à fond. Ça dépend aussi des prospects NBA. Forcément, je suis toujours un peu plus concentré sur les prospects NBA. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai analysé modestement, il y a une équipe comme Arizona qui me paraît pas mal. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Arizona? Je te le demande parce qu'il y a l'ami Caleb Love qui avait
Ouais.
inscrit un game winner contre ton équipe de cœur, Duke. Il y a 2 ans, la dernière fois qu'on l'a vu au tournoi,
Ouais.
il y a game winner contre
Il
Duke
avait été pas mauvais.
avec
C'est
North
sûr.
Carolina.
Ouais, avec North Carolina. North Carolina qui du coup a été finaliste en 2022, ne fait pas la March Madness en 2023. Gros drame. C'était pas arrivé depuis très longtemps qu'une équipe, on va dire, première en pré-saison au top, se qualifie pas à la fin et refuse de même faire le NIT pour sauver l'honneur, on va dire. Et c'est sûr que Caleb Love, bah, il a l'esprit de revanche. Il avait besoin de sortir de l'ombre d'Armando Bacot, qui est vraiment le mec à North Carolina qui monopolise l'image. Et le ballon aussi, techniquement, vu qu'il est pivot, donc on lui filait beaucoup de ballons. Et ouais, il avait besoin de ça. Il a fait une bonne saison à Arizona. C'est sûr que la Pac-12, pour sa dernière année d'existence, ça a été une belle conférence, très homogène. Donc ils sont capables de sortir. Ils peuvent sortir des grosses équipes aussi. Arizona peut aller loin,
Ouais,
très loin.
joueur de l'année en Pac-12, Caleb Love.
Ouais.
Et top scorer de l'équipe. Enfin, voilà, ça fait partie des joueurs.
C'est un des joueurs à suivre et qui potentiellement peut se présenter à la draft à la fin de l'année si le tournoi va bien.
Ouais, et du coup, pour se projeter un peu draft, là, c'est pas un podcast sur la draft, parce qu'on en parlera plus tard, mais est-ce qu'un joueur comme Caleb Love, tu le vois être bon en NBA, des joueurs un peu matures comme ça, on est beaucoup moins sur du one and done maintenant. Est-ce que c'est le genre de
Ouais.
joueur que tu vois être performant en NBA, par exemple?
Bah, on va dire que le one and done, c'est en train de se finir parce que bon, déjà, il y a le truc en universitaire où tu es payé, donc tu es payé par ton droit à l'image, donc tu peux rester, on va dire, tu gagnes de l'argent plutôt que, on va dire, s'acclimater au rythme et partir en NBA tout de suite. Et puis, les équipes, ils sont en train de changer la donne. Juste Jaime Jaquez Junior cette année, ça fait changer des mentalités parce que le mec a fait 4 ans à la fac et il est en train de fermer quelques bouches et il y en a deux trois qui ont pris quelqu'un d'autre à la draft, les Lakers juste au-dessus je
Ouais,
crois,
avec
qui se mordent un peu les doigts quoi.
ou de Schifino à la place
Ouais.
de Jaime Jaquez. Et puis tu as raison de le souligner parce qu'il y a aussi, c'est dans la lignée aussi des mecs de Villanova dont on aime bien parler dans le podcast, les joueurs
Ouais.
matures, à la Jalen Brunson, Josh Hart et compagnie, et c'est des joueurs qui n'ont pas fait
Cam
de one and
Johnson,
done.
ouais.
Et
Ouais, Cam Johnson aussi qui est passé par North Carolina,
ouais.
on peut leur faire confiance. C'est un pari techniquement, bah sur le papier c'est un pari, Mais s'il est bien entouré, avec un profil pareil, il peut faire des ravages tout de suite.
Et North Carolina, alors je sais que c'est pas ton équipe préférée, on va dire, c'est un euphémisme.
Ouais.
Mais je sais que tu es capable de l'analyser de manière objective.
Oui.
Depuis que Caleb Love est plus là, donc tu parlais d'Armando Bacot et il y a RJ Davis qui aussi qui est quand même pas mal
RJ
depuis
Davis,
que
oui.
depuis Caleb Love est parti, la séparation se passe plutôt bien. Ça joue maintenant
Ouais.
avec le jeune Elliot Cadol. Est-ce que c'est un Canadien avec un nom comme ça? C'est pas possible.
C'est un Suédois.
Suédois, d'accord, très bien.
C'est un Suédois.
Parce que je l'ai vu jouer, j'étais pas foutu de savoir sa nationalité, mais j'ai trouvé très bon à chaque
Ouais,
fois que j'ai regardé.
il a joué pour la Suède. Ouais. Il a des origines suédoises. Mais en tout
D'accord.
cas, je crois qu'il représente la Suède nationale.
Ouais. Bon, en tout cas, ça a bien fonctionné même avec
Ouais.
ce changement de visage de l'équipe. Ils sont tête de série numéro 1. C'est une fac qui est toujours. Bah, en France, les gens même qui suivent de manière assez sommaire connaissent forcément North Carolina pour Michael Jordan et
Obligé.
d'autres gros joueurs. Donc c'est une équipe qui intéresse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Tar Heels de cette année?
Cette année, bah déjà ils gagnent l'ACC en saison régulière. Bon, ils se font surprendre au tournoi de fin de saison face à NC State qui gagne 5 matchs en 5 jours. Donc on va dire que c'était un peu anodin, mais il n'y a pas qu'eux qui se sont fait surprendre, donc ce serait bête de parler que ça. Non, North Carolina, c'est un programme là qui bâtit depuis de nombreuses années sur la longévité en fait. Le one and done chez eux, c'est presque anodin maintenant. C'est très rare par rapport à Duke en comparaison qui mise beaucoup sur ça, on va dire. Donc en fait, avec la longévité, ils créent un vrai programme et Armando Bacot en est la preuve. Sa cinquième ou sixième année, c'est beaucoup, mais ça marche.
Ouais, donc
Donc
tu les
il
vois dans
a
la discussion.
l'expérience fait beaucoup de choses sur son nom. Hein.
Et donc tu vois North Carolina assez loin dans ton bracket.
Il...
Est-ce que tu as réussi à séparer l'homme de l'artiste?
Ouais, en regardant, je regarde un peu encore le parcours. Ils ont un parcours, on va dire, plus simple que les autres first seed. Donc on va dire qu'il pourrait aller loin, mais attention, en Elite 8, si tout se passe bien, on suit les seeds, c'est contre Arizona. Donc qu'est-ce que Caleb Love va faire du mal à son
Ah,
ancien
ce
programme?
serait beau pour la story. La storyline serait
Ce
magnifique.
serait magnifique.
Ok pour North Carolina. Est-ce qu'il y a d'autres équipes, des équipes dont tu aimerais nous parler, que tu penses capables soit de créer la surprise, soit d'être à la hauteur des attentes? Parce que là, j'en ai cité de manière un peu. Je l'ai fait de manière un peu rapide. Est-ce qu'il y a des équipes que toi tu as ciblées qui te semblent soit incontournables, soit capables de créer la surprise? En dehors de Duke, évidemment,
Ouais.
on va parler un peu après, forcément. Je t'ai
Bien
réservé un
sûr.
petit moment de discussion sur les Blue Devils,
Yes.
évidemment.
Évidemment. Non, je vais continuer un peu sur les deux autres first seed du South et de la Midwest. Houston est une équipe qui est dans le haut de tableau du top 25 chaque année, qui est toujours au top de sa conférence en américaine et qui a une défense de feu cette année. C'est pour ceux qui ont un peu suivi les Knicks cette année, Quentin Grimes vient de là-bas, Marcus Sasser aussi.
C'était ton poulain, Quentin Grimes.
Et bien
Quentin Grimes,
sûr, quand ils sont allés jusqu'au Final Four, c'était magnifique. Mais Houston, c'est toujours une équipe un peu comme Purdue, dont je vais parler après, qui reste dans les hauts tableaux, qui a eu un peu de malchance l'année passée, mais qui peut encore faire mal si sa défense continue à être aussi exceptionnelle.
les Cougars de Houston, donc que tu sens plutôt bien.
Exactement.
Ok.
Ouais, et après, Purdue, comment ne pas parler de Purdue et de Zach Edey, le Canadien? Un peu malchanceux depuis 2 ans, mais pour sa dernière année sûrement, j'espère que le joueur de l'année, va remonter un peu la pente.
Ouais, pour ceux qui ne le connaissent pas, Zach Edey, c'est Canadien, 2,24 m. On l'a entreaperçu avec
Des
le
mains,
Canada,
des mains.
des
Parce
mains, c'est
que
important.
faire 2,24 m sans les mains, c'est un peu bête, mais il roule sur la concurrence complète. Dans une conférence qui est la Big Ten, qui est très très forte, potentiellement une top 2 ou même top 1 des conférences actuellement aux États-Unis. En termes de compétitivité, et chaque année, le nombre d'équipes qui arrivent à la March Madness, c'est exceptionnel.
Et qu'est-ce qui fait que les Boilermakers, j'aime toujours bien leur nom, les Boilermakers vont éviter de se faire upset comme à chaque fois depuis 2 ans par des toutes petites seeds 16 ou 15? L'année dernière, c'était Fairleigh Dickinson et Saint Peter's
Ouais.
hein, l'année précédente.
Ouais, top 15 puis top 16 l'année passée. On va dire que cette année, bah, l'expérience fait un peu tout. Je sais pas s'il y a du stress potentiellement, et je pense qu'il y a un aspect mental, on va dire, sur l'année dernière, surtout face à Farley Dickinson. Bon, ok, le petit 16e, il arrive, peut-être il sort du first floor et il se débat un peu, il se dit on va tout donner et on va voir si ça passe. Comme disait un grand monsieur, tente, on sait jamais, ça peut marcher.
Sur un malentendu.
Sur un malentendu, exactement. Et ouais, là, ils doivent apprendre de l'expérience. En plus, ils jouaient Indianapolis le premier match. Donc, ils sont un peu à la maison.
C'est ça.
J'espère que ça jouera, surtout sur ouais, la première, les deux premiers matchs. Surtout qu'après Utah State, TCU, ça va être chaud aussi. C'est toujours compliqué d'affronter un seed 8 ou un seed 9, parce que déjà, les deux se mettent sur la gueule avant.
Exactement.
Et après, faut assurer le statut.
C'est vraiment le pire dans les brackets. Là, j'ai fait mon bracket ce matin. On est évidemment dans la même ligue de brackets. Hein. Je finis évidemment toujours dernier. Pour si vous vous demandez, c'est rarement moi qui finis pas dernier. À chaque fois, c'est vrai que les oppositions 8-9, c'est une tannée parce que t'as beau analyser dans tous les sens, c'est vraiment
En fait,
compliqué.
dans les stats all time, le seed 9 gagne plus de matchs que le seed 8.
Ouais, tu vois. Donc
Voilà, c'est en fait c'est tellement serré que on va dire faut le faire au feeling. Si on aime bien le nom de la fac, on prend. Et là, Utah State, TCU, ah, TCU, ça
ouais.
pète.
Et en parlant de bracket, j'ai vu que notre ami Barack Obama avait rempli le sien aujourd'hui même.
Ouais, UConn encore
Ouais, il a mis
champion.
UConn, donc il sait pas, ça va, il a fait comme moi, il s'est pas trop pris la tête, j'ai mis UConn aussi comme ça. Et par contre, il a mis, je dis pas de bêtises, il a mis Kentucky en finale.
Mais Kentucky, c'est, on va dire que c'est un peu,
Il l'a fait
c'est
par
une équipe de
habitude.
freshman.
Il l'a fait par
Bah, c'est
habitude
une...
ou
Non, même pas, même pas. Bah, Kentucky est toujours au top. Ça fait bon, ça fait quelques saisons que en March Madness, c'est pas ça. Mais cette année, entre Rob Dillingham et Rich Sheppard, s'il y en a un des deux qui prend feu, potentiellement, il y a des, ils peuvent passer des tours et des tours.
J'allais te demander à leur sujet parce que c'est forcément moi qui suis plus le nez dans l'NBA, dans la draft et tout ça. Ça a beaucoup parlé d'eux cette saison, tour à tour.
Ouais.
D'abord Dillingham, et là récemment, j'entends parler que de Rich Sheppard. J'ai même vu, il y a un buzz sur un possible first pick, vu que c'est très très incertain avec nos Français qui se passent un peu la balle entre la première et la troisième place. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur Rob Dillingham et sur le fameux Rich Sheppard?
On va dire que Rob Dillingham a fait un excellent début de saison en conférence. Il est très complet et il peut aider de nombreuses équipes là. En regardant le top de la loterie, il va pouvoir aider plusieurs équipes. Rich Sheppard, il est un peu plus tête brûlée. Un peu, bah, c'est le style des arrières de Kentucky, on va dire, à la Maxey, à la Hero, à toute cette lignée-là qui déroule en fait et qui, à l'instar de Devin Booker en 2014-2015, peut débouler sur un tournoi March Madness et enchaîner les perfs.
Ouais, donc là, alors là, c'est les deux arrières, hein. Ils font le back-court ensemble du coup.
Ouais, c'est ça.
Ce que j'ai vu, c'est pas mal. Dillingham, sa cote, elle a été un peu fluctuante, je trouve. Mais bon,
C'est ça, mais parce que en fait, Rich Sheppard, à la fin de la saison, bah ça la progression a été constante, donc il prend un peu les devants.
Et donc, malgré cette jeunesse-là, est-ce que Kentucky avec Calipari, ça peut faire quelque chose? Tu les vois faire quelque chose?
Bah, il y a eu des équipes par le passé de freshman ou majoritairement jeunes qui a réussi le coup. Duke en
Notamment
2015.
Kentucky, hein, d'ailleurs aussi.
Aussi, hein, c'est quand il y a des jeunes talentueux, l'expérience, on va dire, il y en aura toujours un senior ou un junior sur le banc qui sera là pour aider, à compenser, aider le mental, qui a déjà vécu le truc, essayer de compenser et d'avoir cette alchimie, en fait. Pour moi, ce qui fait gagner une équipe à la March Madness, c'est quand l'équipe elle est structurée et chacun connaît son rôle et que tout le monde avance vers le même but, aller au titre.
Donc possible, donc Kentucky possible. Alors moi j'avoue que ça fait
C'est
quelques
ça va
années
être
qu'ils sont
qui tout
dans le
double,
bain, mais
mais
ouais.
en regardant le, ils étaient 6-3 dans le même bracket que Duke et Houston
Ouf.
et Marquette aussi. Je parlais de Marquette parce
Ouais.
que faut en parler aussi. Ils ont, c'est un gros tableau. La South, c'est un super gros tableau.
D'accord. Alors Marquette, si tu voulais nous parler de Marquette, qu'est-ce que tu as à nous dire sur eux?
Tyler Colec. Tyler Colec.
Tyler
Regardez Tyler
Colic.
Colec jouer. Tyler Colec.
Ok.
Déjà, juste pour le nom, K-O-L-E-K.
Ouais.
Efficace. Et il, c'est le mec qui a fait du tort à UConn toute la saison. C'est l'un des meilleurs joueurs de la Big East. La Big East étant toujours une conférence aussi forte, comme j'ai dit. Et Marquette est un gros programme qui a vu passer des joueurs extra, comme un certain Dwayne ou un certain Jimmy Butler, et qui continue en fait sa bonne lignée de programmes forts et qui réussit à s'imposer face à des équipes beaucoup plus fortes et avec force et manière surtout.
Ouais. Alors et ce Tyler Colec, alors c'est quoi comme type de joueur? Parce que du coup j'ai vu son nom passer, mais j'ai pas regardé Marquette, j'ai pas vu Marquette cette année. C'est...
Ouais.
Il a un nom de shooter. Il a un nom de shooter déjà.
Il a un nom de shooter. Ouais. Exactement. Voilà. Exactement. Ça s'entend au nom. Ça s'entend au nom. Et c'est un bel arrière,
ouais,
qui potentiellement avec la March Madness pourrait gagner beaucoup plus de place à la draft parce que pour certains prospects tout se joue pendant ces 3 semaines-là.
Bah oui.
Jordan Hawkins en est la preuve vivante l'année dernière et Jaime Raquez aussi parce que avant la March Madness ou au moins un mois avant il était même pas dans les tableaux de draft.
Ouais.
J'ai arrêté de défendre mon poulain. Mais ouais, c'est un mec qui potentiellement avec un gros tournoi en plus un peu à la profil à Jordan Hawkins qui peut faire très mal.
Ouais, Hawkins qui a fait une bonne saison rookie avec les Pelicans, hein.
Ouais, et qui avait fait un super tournoi et qui a été élu meilleur joueur de tournoi l'année dernière.
Absolument. Ok pour Marquette, très bien. Est-ce que avant de passer à Duke, est-ce qu'il y a des équipes comme ça, d'autres équipes dont tu voulais parler éventuellement?
Je vais peut-être parler un peu de Kansas cette année. Kansas champion 2022 avec Christian Brown d'ailleurs,
ouais,
champion NBA l'année dernière,
et qui a
encore deux super seniors cette année dans son effectif, Hunter Dickinson en pivot qui a fait des massacres avec Michigan pendant 4 ans avant, et Kevin McCullough qui est passé par Texas Tech qui avait été au moins récurrent. Texas Tech, c'était un peu la bête noire de tout le monde sur les derniers tournois. Duke, en 2021, avait eu un peu peur.
Ouais.
Même en 2022. Et c'est sûr que des deux super seniors comme ça, qui ont l'expérience du tournoi et on va dire qui ont envie de gagner un dernier titre avant de s'en aller,
ouais,
c'est sûr que ça fait peur. Et en regardant un peu leur tournoi, c'était 4. Ce serait un gros match-up au Sweet 16, donc 3e tour face à Purdue. Donc ça enverrait du lourd. Dinkinson aidait. Je pense qu'il y a,
ouais,
beaucoup de scouts qui aimeraient voir ça.
Ah, et puis quand ça, il y a toujours le nom, il y a le nom, quoi, l'expérience. Il y a une
culture. Le nom, culture Bill Self.
Ouais, Bill Self.
Exactement. Ouais.
Donc c'est toujours ça peut être un argument aussi pour aller loin. Je les ai pas mis aller trop loin, je leur fais passer des tours comme à chaque fois parce que je me dis qu'ils vont pas s'arrêter tout de suite. J'ai l'impression que c'est,
ouais,
pas l'équipe qui prend des upsets trop tôt, mais
non.
Mais ouais, c'est vrai que le facteur avec les joueurs très très expérimentés, Dickinson a été un peu blessé récemment, je crois, parce que je le voyais pas.
Ouais, il avait eu 2-3 problèmes, mais
il sera là.
Il est revenu tranquillement.
D'accord. Donc Kansas peut y croire cette année.
Toujours compter sur Kansas et les gros noms, on va dire.
Ouais.
L'expérience et surtout l'expérience du coach peut aider énormément.
Bien sûr. Alors, en parlant d'expérience du coach, alors, il est un peu plus jeune.
Il est un peu plus jeune.
Voilà. Mais c'est un peu l'héritier. C'est l'héritier d'un coach ultra expérimenté.
Mythique.
Ouais, on va parler de John Shire, le successeur de Mike Krzyzewski, de Coach K. C'est quoi, c'est sa deuxième saison pleine?
Oui,
c'était sa
c'est
deuxième
ça.
Saison pleine à la tête des Blue Devils. Comment est-ce que tu les sens? Est-ce qu'il y a des talents qui sont NBA material? Parce que je vais quand même préciser à nos auditeurs que depuis qu'on se connaît, tu me parles de Paolo Banchero, donc il était en high school.
Ouais.
Tu m'avais pas menti, tu m'avais dit que ce serait un phénomène, que ce serait un super joueur. Je sais même pas s'il avait choisi Duke déjà quand tu me parlais de lui, parce que c'était encore hésitant. Tu vois.
C'est possible. C'est possible juste après qu'il ait choisi, qu'il ait hésité avec Washington. C'est possible.
C'est ça. Mais
Je ne parle pas des prospects qui rejoignent Duke avant que ce soit officiel.
bon, en tout cas, tu m'avais vraiment prévenu sur le potentiel du garçon et ça se confirme. Est-ce qu'il y a des
Ouais.
joueurs comme ça de cet acabit-là à Duke et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe de cœur?
Déjà, deuxième saison de John Shire. John Shire a l'expérience d'avoir gagné un titre en 2010
En tant que
avec
joueur.
Coach K comme coach. Voilà, en tant que joueur, il en a gagné un en tant qu'assistant en 2015. Il a l'expérience. Après, l'effectif est complet, mais on sait que sur la March Madness, les gardes ont beaucoup de rôle à jouer sur les décisions des victoires, que ce soit bon sur les game winners de fou, ça arrive, mais une bonne prestation des meneurs et des arrières est souvent essentielle pour gagner un match à la March Madness. Donc sur ça, Jeremy Roach, qui est capitaine, qui est meneur, va devoir prendre encore plus de responsabilités. Il en avait déjà l'année dernière, ça s'est bien passé, mais cette année, faut qu'il les retrouve. Il y avait un peu de soucis sur les derniers matchs de la saison. Duke qui perd les deux matchs contre North Carolina, donc c'est sûr que ça fait un peu mal pour finir l'année. Éliminé par NC State, bon, NC State qui roule sur toute la conférence au tournoi, mais ça fait mal quand même. Donc on va dire que Jeremy Roach, capitaine, a un gros rôle à jouer. À côté, Jared McCain, pour certains, ce sera un TikToker, pour d'autres, ce sera un basketteur. Une des plus grosses valorisations NIL, droit de l'image de la NCAA, sûrement derrière Ronnie James, je pense.
Probable.
Parce que niveau valorisation, il était bien en route. Et c'est un shooter et il les a déjà montrés contre les rivalry games contre North Carolina. Il peut prendre feu. Il faut que ça continue sur cette fin de saison complètement. Et après, il y a toujours le franchise player, Kyle Filipowski, que j'adore personnellement, qui sera sûrement lottery pick, voire top 10 si la March Madness se passe bien.
Est-ce qu'il va mieux
Un peu en cours.
depuis qu'il s'est fait percuter par un fan? C'était
On
contre
va
qui?
dire
C'était contre qui déjà?
Wake Forest.
Wake
C'est à
Forest,
Wake Forest. Ouais. Après la défaite à Wake Forest, les fans qui envahissent le
envahissement, ouais.
terrain et qui lui rentrent un peu, qui le poussent un peu, et bon, ça rentre dans les jambes, on sait pas trop, mais c'était pas foufou. Il s'en est remis. Il y a eu, c'était surtout blessure légère, mais c'était pas grave, mais ça aurait pu être grave,
Bien
vu
sûr,
les
ouais.
images. Mais il s'en est remis et on se doute qu'il va partir à la fin de la saison. C'est sa deuxième année. Il est déjà resté un an de plus. Il aurait pu aller à la draft l'année dernière en disant top 15, top 20. Mais là, on sait qu'il sera beaucoup plus haut, donc il va partir.
Tu peux nous parler un peu du
Et
profil de joueur que c'est? Parce que j'aime bien ce que j'en ai vu,
c'est
j'aime bien
un,
aussi.
ouais. C'est un poste 4-5, plutôt, j'irais plutôt 4 en NBA, qui est très physique, qui est prêt à batailler à l'intérieur, peu importe le physique. Donc ça, c'est génial. Et qui est aussi capable de s'écarter pour prendre du 3 points. Et c'est un 4 stretch moderne, mais pas si fin par rapport à d'autres.
Bon, très bon prospect NBA, quoi. C'est bien ce
Ouais.
qui me semblait avoir cerné en le voyant. Donc, de façon la plus objective possible, qu'est-ce que tu vois comme perspective pour Duke?
Comme j'ai dit, Duke un quart assez compliqué. Houston, Duke, Marquette, Kentucky, ça c'est les quatre têtes de série. Donc ça va être chaud patate. Mais Duke peut quand même, je les vois pas aller au bout personnellement. Je pense qu'il y aura un peu de manque et une mauvaise prestation, on va dire, comme au tournoi de conférence, c'est fini. Et puis j'ai l'impression aussi qu'à Duke, qu'on pense pas mal à la saison prochaine.
Déjà, alors c'est quoi? Est-ce qu'il y a du gros nom
Cooper
qui arrive?
Flagg.
Ah,
Cooper
Cooper
Flagg.
Flagg, évidemment.
Cooper Flagg, Kanami Moishi, troisième prospect du pays, qui est soudanais du Sud. Et encore des gros gardes derrière. Je pense que c'est une des plus grosses classes de recrutement de l'histoire de Duke l'année prochaine.
Ah ouais, carrément. Donc, ouais.
Numéro 1, numéro 3, je pense qu'il y a deux top 20 en plus à la main. Donc il y a du lourd qui arrive. Beaucoup de monde chez les fans des Blue Devils pense à la suite, mais on va essayer de capitaliser sur cette saison, voir les derniers matchs de Kyle Filipowski. Il va tout donner pour les derniers, mais dans un quart de braquette aussi compliqué, c'est possible que Duke n'aille pas au bout.
Alors, un petit mot rapide sur Cooper Flagg, parce que du coup, on n'en a pas beaucoup parlé cette année. C'était un peu une ombre qui planait sur l'avenir, parce que les Américains cherchaient un peu leur nouveau gros prospect, parce que c'est très international maintenant, NBA, les gros talents, notamment le dernier en date, un petit Français dont on ne citera pas le nom,
Un peu trop long le nom aussi.
C'est pour ça. Cooper Flagg, on est sur du talent vraiment élite, on est d'accord?
Ouais, on est sur la même hype au début au lycée que Zion Williamson en fait.
On est d'accord, c'est bien ce que. C'est
Voilà.
pareil, de ce que j'ai. Alors, pour le coup, lui, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est aussi documenté que Zion à l'époque, mais il y a beaucoup, beaucoup de matchs, de ses matchs en high school, de ses matchs en sélection aussi, parce qu'il a gagné avec la sélection américaine. C'est
Oui.
quel profil de joueur pour les gens qui ne se sont pas encore renseignés sur le phénomène?
C'est une licorne, c'est un peu à la Chet Holmgren, plus sur un poste d'ailier quand même. C'est un mec qui va passer le ballon, qui a du handle, qui va pouvoir finir au cercle sans trop de difficultés. Le shoot potentiellement a encore besoin d'amélioration, mais la mécanique est fluide, donc il devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Il fait des ravages déjà avec Monteverde. Si vous voulez regarder, je pense qu'il y a des matchs sur l'appli NBA de temps en temps. Ils diffusent le high school. Donc si vous voulez regarder la Monteverde Academy, surtout avec les playoffs au lycée qui arrivent, n'hésitez pas pour voir le type de phénomène qu'est ce garçon, parce que je pense que sur des matchs, il a dû caler des 20 points, dire bon, 10 passes et 10 comptes, quoi.
C'est ça, ça va clairement tanker pour Cooper Flagg, de ce que
Ouais.
on peut s'entendre.
Tanker en 2026, tanker pour la draft 2026, pour la 2025 même.
Et même les instincts défensifs ont l'air vraiment énormes
Ouais.
aussi. Il a l'air ultra complet, c'est aussi ça le truc.
La mère avait joué à Maine, la mère
Ouais.
est basketteuse professionnelle, ou au moins universitaire, avait joué à Maine avec la mère de Dove Kingan, pour l'anecdote. C'est pour ça qu'il avait hésité avec UConn, mais au final il vient à Duke. Et après, le papa est sportif aussi, donc ça suit un peu dans la lignée, dans l'ADN, quoi.
De toute façon, c'est clairement un joueur dont on reparlera dans les mois et les années qui viennent, tellement c'est un
Carrément.
phénomène. Et bah, c'est bien de savoir que Duke va avoir une classe excitante à suivre aussi l'année prochaine, parce que
Ouais.
c'est pareil, c'est une des universités que les gens, même qui suivent de loin, aiment bien suivre. Alors les Américains aiment détester cette université, tu n'es pas sans le savoir,
Évidemment.
mais les gens aiment quand même la suivre et c'est toujours une fac qui fait parler. Alors, est-ce qu'il y a des petits joueurs, avant de passer au pronostic, est-ce qu'il y a des petits joueurs comme ça que tu aimerais mettre en lumière, dont tu
Je vais
sens
en
que. Ouais.
présenter deux, trois qui pourront ouvrir potentiellement le débat, on sait jamais, à la draft, ou au moins qui feront parler sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être leur nom passer.
Très bien.
Déjà, je vais vérifier leur seed. Tic, 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 tic. Ah oui, ils sont piqués. Déjà, je vais commencer avec Keisei Tominaga. C'est hyper dur à dire. Keisei Tominaga. Nebraska, un petit meneur japonais qui envoie du 3 points, qui envoie du show, du handle. Je pense que si vous voulez vous poser devant un match, potentiellement Nebraska, seed 8, toujours dans le seed South avec toutes les équipes que j'ai listées avant, Houston, Marquette, machin, vous posez, vous regardez. Ce sera du spectacle et c'est un mec qui va pouvoir porter son équipe loin si tout se passe bien et que l'adresse suit.
J'adorerais savoir comment un japonais atterrit dans le Nebraska. Parce que même si c'est pas le
Alors,
premier japonais, c'est quand même assez
alors,
fou.
va y avoir un film là-dessus, c'est Le Prince à New York, bah, c'est pareil, mais dans le Nebraska. Ils font la suite. C'est produit par Prime Video.
Donc
C'est sûr que,
petit phénomène
ouais,
assez.
c'est potentiellement l'un des petits noms qui peut ressortir sur les réseaux sociaux, qui peut faire parler et qui peut faire très mal. Les highlights peuvent sortir très vite, je pense.
D'accord. C'est noté.
Après, je vais reparler un peu de ACC parce qu'il a fait mal avec NC State. DJ Burns, pivot avec le beat d'Obélix, mais qui bouge du monde dans la raquette et qui avait fait très mal du coup à toute la ACC pendant le tournoi des playoffs. Duke, North Carolina, tout le monde a un peu mangé. Pour l'anecdote, NC State a plus gagné de matchs à la Capital One Arena que les Wizards cette saison. Voilà, faut la garder en tête
Ouais,
celle-là.
elle est bonne cette stat.
5 victoires contre 4, hein, donc s'il y a des fans des Wizards, je suis désolé, mais la statistique était trop belle. Donc ouais, NC State peut surfer sur la vague en fait du tournoi. Ils se sont qualifiés comme ça en gagnant le championnat de l'Atlantic Conference, mais ça peut continuer en souvenir de l'année passée. On a encore Miami il y a 2 ans avec la ACC qui avait fait un beau run et je crois qu'ils étaient allés même jusqu'au Final Four avec Isaiah Wong. La ACC arrive toujours à envoyer des équipes très très loin, donc potentiellement cette année. Si on va dire les gros noms se font sortir, faites attention à NC State.
C'est noté alors. Je vais peut-être revoir mon bracket parce que je crois que je les ai pas mis très très loin.
Bah, NC State qui affronte Texas Tech au premier tour. Et après, potentiellement, c'est Jack Entucky. Ils ont un super. C'est la division. Elle fait mal,
Mortel.
hein. Ouais, ça va être à la vie et à la mort dans le Tit South.
Ok. Est-ce que tu as encore quelques petits noms ou pas?
Ouais, je vais parler rapidement de Tennessee, qui fait quand même une belle saison ici, un peu derrière Kentucky, mais qui reste quand même très fort. Et avec un nom, je pense que les Américains ont peut-être plus de mal que les Français. Dalton Knecht.
Comment ça
Knecht.
s'écrit? Knecht.
Knecht.
D'accord, Knecht, très bien.
Knecht,
C'est pas
voilà.
comme. Je sais plus où il joue, mais toi tu dois le savoir. Mais le fameux Noah Kniga avec le K qui se prononce pas.
Ah oui!
T'avais vu passer ça, ouais, je sais pas si.
Ah, y a des beaux noms en NCAA avec Shai, et on en fait la liste.
Absolument.
Je pourrais parler de Boubui après tout à l'heure à Northwestern.
Ouais, j'ai vu son nom aussi.
Boubui.
Ouais.
Si vous voulez regarder, gros prospect aussi. Mais ouais, Dalton Knecht qui est un peu le franchise player de Tennessee cette année. Qui est là aussi au scoring, surtout cet apport-là. Mais qui peut apporter sur les autres aspects du jeu là pendant la March Madness, très clairement. Tennessee est deuxième seed derrière Purdue. À côté, ça pourrait se batailler, mais ils ont gros à jouer Tennessee cette année. Ça peut aller loin.
Moi, par réflexe, Tennessee, c'est NCAA féminine. Et les gars,
Ouais.
je les considère à peine. Je vois des talents passer. Hein. Les Yves Ponce et
Ah,
compagnie, c'est qui ceux-là,
c'est
non?
sûr que à partir du moment où Tennessee chez les filles n'a loupé aucune March Madness, t'es obligé de considérer plus les filles que les garçons.
Voilà. Ok, si t'as encore. N'hésite pas, hein, si t'as des petits noms.
Ouais, après, même s'ils sont pas sûrs de se qualifier encore, vu qu'ils passent au First Four, je parlais de Cody Williams.
Ah, le frère.
Ouais.
Le frère de Jalen.
Je crois bien, ouais.
C'est lui.
Je sais plus trop les liens de parenté, mais Colorado, du coup, qui passe par le First Four, donc le premier tournant, on va dire, qualificatif pour le gros bracket ensuite. Cody Williams, il est dans le top 5 de pas mal de drafts, qui était déjà annoncé l'année dernière très haut. Colorado a vu passer pas mal de joueurs les années précédentes et continue sur sa lancée. Pas mal en rivalité avec les autres facs de l'État, mais Cody Williams peut emmener son équipe loin et va rejoindre encore le gros quart du Sud. Donc ça rajoutera encore une équipe encore plus à suivre et surtout Cody Williams qui a gros à jouer avant la draft parce que avec Rich Sheppard, avec les Français potentiellement, bon Alex Sarr a fini sa saison mais Zachary Risacher est encore loin d'avoir fini, surtout avec la Coupe d'Europe et les playoffs qui vont arriver après. C'est sûr que Cody Williams a beaucoup à jouer là et il a déjà joué. Je sais même pas si c'est ce soir ou demain, mais il y a beaucoup à jouer.
Ouais, mais lui, du coup, forcément, je l'ai vu un peu parce que ça en parlait. Ils ont posé des questions à son frère, donc qui est le joueur
Oui.
d'OKC, qui est quasiment le deuxième meilleur joueur d'OKC avec Chet Holmgren. C'est devenu une valeur sûre déjà. Et ouais, ça a l'air d'être un gros potentiel, Cody Williams. Et j'ai vu que son nom grimpait pas mal dans les mock drafts ces dernières semaines.
Il était déjà haut en way too early l'année dernière, juste après la draft 2023, il était deuxième.
Ah ouais, donc
Donc
c'est.
c'est un gros candidat, mais il a beaucoup à jouer là. Tout va jouer sur la March Madness, déjà pour beaucoup, mais lui encore plus par rapport à ses concurrents. Et c'est sûr que vu le nombre de concurrents qui sont en Europe, ça va être différent.
Très bien. Si t'as pas d'autres petits poulains à placer, on peut passer au pronostic.
Non, moi j'ai fini ma petite liste.
Alors, dans ton bracket, du coup, je n'ai pas vu encore ton bracket parce que pour l'instant, c'est masqué dans notre groupe.
Je ne l'ai pas finalisé. Je ne l'ai pas
D'accord.
finalisé.
Alors, dans l'idée, si flingue sur la tempe, quelle équipe tu choisirais pour brandir le trophée à
Oh,
la fin? Si tu ne devais en choisir qu'une
déjà,
seule.
je suis obligée de choisir une équipe qui ne sait pas faire seed parce que vu le tournoi de l'année dernière, je sens que ça va continuer les upsets et les upsets, donc je ne peux pas parier sur un truc obvious. Ce serait indigne de mon panache. Je vois bien quand même. Non, je vais pas parier sur Arizona l'année dernière, ils m'ont déçu.
Eh bien, je te pousse à faire ton prono en direct.
Je vais dire une équipe que pas beaucoup de monde mettront au titre, mais que pour moi, ça restera toujours une équipe un peu la bête noire de n'importe quelle équipe en March Madness, ce sera Iowa State.
Iowa State.
Les Cyclones, ancienne fac de Tyrese Haliburton. Un gros programme avec des joueurs encore à révéler sur ce tournoi, mais qui fait toujours une grosse saison en Big 12, donc la conférence de Texas, vraiment du Sud, et qui envoie chaque année. Là, ils ont un gros seed, mais des années d'avant, on va dire que c'était des seeds un peu plus bas, entre 5 et 8. Mais il passait toujours 3-4 tours et je pense que cette année peut être la bonne.
Ah ouais, c'est panache à Iowa State. J'en
C'est
attendais
très panache, mais j'y crois.
pas moins de toi. Alors moi je vais autant je suis souvent panache sur les braquettes des filles dont on parlera dans un épisode qui sortira en même temps que celui-là. Chez les garçons, j'ai honteusement mis UConn qui est tête de série numéro 1, que voilà, au back-to-back compliqué.
Barack Obama te remercie.
C'est ça, Barack me manque. Barack me manque et
Barack me manque.
voilà, et du coup je me suis dit que j'allais suivre Barack. Alors je vois pas Kentucky aller en finale par contre, mais je vais quand même tenter UConn qui m'a l'air solide et j'ai l'impression que ça peut aller au bout une deuxième fois de suite. Voilà. Je vais m'en tenir à ça. Mais alors notez bien Iowa State du coup parce que
On
c'est la
sait
mascotte.
jamais. Potentiellement, ils se sortiront au premier tour par South Dakota State, des Jackrabbits. Mais
Ça sent bon le terroir américain, ça. North Dakota
ça,
State, Iowa
ça sent
State, c'est.
déjà South Dakota State, Washington State. Après, ça peut jouer Duke, BYU, Morehead
Ah,
State.
Moorhead State, oh là là, oui.
Le meilleur nom.
Duquesne, j'ai vu que c'est la fac où coach le premier coach de LeBron en high school.
C'est ça, ouais.
C'est ça, j'ai vu
Qui,
ça tout
ouais.
à l'heure, ouais.
C'est ça. Et il doit y avoir un de ses anciens coéquipiers qui est assistant là-bas en plus.
D'accord. Très bien. Donc, les pronostics sont notés. Vous pourrez
Ouais.
nous donner les vôtres dans les commentaires, n'hésitez pas.
Et si j'ai faux, ressortez l'extrait, hein, je m'en fous.
Oui, bah ça va, Iowa State, personne t'en voudra, t'inquiète pas. C'est plutôt, t'as
Ouais,
plutôt,
mais
c'est plutôt si
si ça
Iowa State
marche,
gagne,
ressortez!
voilà,
Ressortez la
si
VAR!
ça marche, vous pouvez ressortir ça et dire
Ressortez s'il vous plaît, si ça marche.
la prophétie a été bonne. Lohan, merci beaucoup.
Ben, merci,
On va te
Shai.
souhaiter une bonne continuation à la saison avec Gris Soufel Weyersheim. Alors, comment tu peux me le prononcer correctement? Parce que du
Alors,
coup.
Gris Souffel Weyersheim.
Veyersheim, très
Le
bien.
WSDV.
Qu'est-ce que ça donne
Bienvenue en Alsace.
en Pro B cette année d'ailleurs, pour les gens qui ne suivent pas comme moi?
Alors, après un début de saison compliqué, on a bien remonté la pente et l'ASA est actuellement 9e du championnat, aux portes des playoffs.
Très bien.
Pas mal encore de gros matchs à jouer. Il reste une dizaine de journées.
Ouais.
Avec le prochain match vendredi contre le 3e du championnat. Et après, ça enchaîne vraiment, on va dire, les matchs un peu décisifs pour rejoindre les playoffs face aux adversaires directs qui ont peut-être juste une victoire d'avance ou deux max. Donc, tout se joue là et les mecs sont motivés et on espère que ça va faire.
Et si vous êtes en Alsace, si vous n'êtes pas encore allé voir des matchs de l'équipe, n'hésitez pas.
Ouais, n'hésitez pas. Surtout avec ce qui arrive, prochain match contre le 3e, mais ensuite, bientôt la réception du leader, La Rochelle, donc à pas manquer.
C'est noté. Merci beaucoup, Loane. Je te dis à très bientôt.
Merci à
Et
toi.
puis, bah, bonne fin de journée et bonne March Madness surtout à tout le monde.
Ouais,
Bye.
suivez ça à fond.
Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.